C'est un endroit encore à moitié secret. Au bord du chemin de fer, à côté du centre d'Arwil, sa forêt, un vaste lac créé par accident il y a une quinzaine d'années. À l'époque, un chantier immobilier commence et une nappe phréatique est percée. Les travaux sont interrompus à cause de la crise financière de 2008. Le lieu devient un chancre et l'eau remonte du sol petit à petit. Pour en apprendre un peu plus sur les origines du lieu, j'ai rencontré une ancienne du quartier qui a connu le site avant l'arrivée de l'eau.
J'arrivais ici en 95.
Son nom, c'est Christine Ancard.
J'avais une chienne et donc il y avait des moments où elle ne pouvait pas fréquenter les mâles. Donc il fallait que je trouve un endroit où elle ne rencontrait pas d'autres chiens. Donc c'est elle qui m'a fait découvrir cet endroit magnifique. C'était bizarre parce que tous les gens qu'on rencontrait ici étaient toujours... avait toujours peur de celui qu'il rencontrait parce qu'il avait l'impression d'être illicite, quoi. Soit c'était les graffeurs, soit c'était parfois la police qui fumait une cigarette et qui buvait une bière hors service, quoi. Parfois c'était les gens qui cherchaient, c'était les gens qui venaient promener leur chien aussi et qui se disaient que c'est parce qu'ils avaient un chien difficile ou bien ils se méfiaient de l'autre chien, quoi. Il y avait toujours comme ça. Et en fait, chaque fois on se rendait compte que l'autre avait peur de vous. On entrait en conversation. Mais c'était très, très, très peu fréquenté.
Aujourd'hui, Christine est loin d'être la seule à venir se promener ici. Si le lieu est devenu agréable, c'est aussi parce qu'une biodiversité riche s'y est développée.
D'arriver à une espèce de miraculeuse transfiguration, puisque c'est devenu un endroit où vous avez les cygnes, les canards, les crêpes, etc. Moi, j'ai appris à connaître les oiseaux. C'est pas nous qui sauvons le marais, c'est le marais qui nous sauve.
Si Christine parle de sauver le marais, c'est parce qu'elle fait partie de ceux qui luttent pour qu'il reste un espace naturel. Pour l'instant, un projet immobilier est toujours prévu sur place, mais le dossier est bloqué. Et ça, ça fait les affaires de ses défenseurs. Celle qui chapeaute cette lutte, c'est Geneviève Quinet. Elle en a fait son activité à plein temps.
Moi, personnellement, je suis arrivée ici parce que j'ai un chien et que j'aime bien aller aussi dans les interstices de la ville. Et j'ai découvert ce lieu et je l'ai trouvé extraordinairement beau. Avoir un paysage comme ça, un plan d'eau, c'est relaxant. Je commençais à y venir quasi tous les jours, comme on va au temple, je sais pas.
Geneviève entend alors parler du projet de construction prévu sur le site. Elle se penche sur le sujet et rencontre Léon Mégang, un naturaliste forestois. En 2015, il fait un relevé de la faune et de la flore du site et lui donne pour la première fois le nom Marais du Hills, car la biodiversité présente est celle d'un marécage. Mais il n'y a pas que la faune et la flore qui importent ici. Le marais est aussi un atout pour la gestion de l'eau dans la commune.
Forêt est touchée par beaucoup d'inondations et de caves humides. Et donc, on commençait aussi à s'intéresser à la gestion intégrée de l'eau à Bruxelles. Et ici, on s'est battu en disant que ça sert de bassin de rétention d'eau et c'est idéal ici parce qu'on se trouve en fond de vallée, la Seine est juste derrière.
En discutant avec Geneviève, je lui demande encore pourquoi elle consacre l'essentiel de son temps à la lutte contre le projet immobilier. C'est aujourd'hui la région qui l'envisage et il sera limité pour tenter de préserver au maximum le marais.
C'est l'incohérence qui me fait peut-être agir, je crois. C'est tout à fait incohérent de venir, d'avoir acheté ça, entre autres, parce qu'il y a un manque d'espace vert et ouvert dans ce quartier, et de venir rajouter 200, 300 personnes, 80 appartements, ça dépend comment ils sont, mais et on va se retrouver avec un manque d'espace, alors qu'il est là, et que le projet est fait, c'est la nature qui l'a fait. Voilà, la nature, elle a tout fait. Il y a eu un accident au début, ils ont percé la nappe phréatique, et puis l'abandon, mais le reste, la nature l'a fait.
On veut tous laisser une empreinte, tous laisser une empreinte, sur un mur, une piste de danse, un pas dans des enceintes.
Avant ma venue sur le site, Geneviève me parle aussi des occupants plus discrets du marais. Face à l'eau se trouve un mur rempli de graffitis. Ici, cet art n'est ni autorisé ni interdit. Geneviève ne connaît pas les graffeurs, mais après quelques coups de fil, j'arrive à entrer en contact avec l'un d'entre eux. Il ne me laissera donner ici que son pseudo, à savoir Sommeil. Il a accepté de réaliser un graffiti en notre compagnie. Quand on le retrouve au marais, il fait un brin de jardinage le long du mur où il va peindre. Debout sur une échelle, il est là avec des herbes folles.
Ouais, tu as des ronces qui descendent assez bas, assez rapidement, ça pousse vite. Donc chaque fois, je recoupe un petit peu. Ça agrandit le mur, on va dire.
Pendant que Sommeil jardine, on parle du lieu en soi. Au niveau graffiti, le site du Marais Wills est quasiment unique à Bruxelles.
C'est un terrain qui est là depuis très longtemps, hein, mais ça n'a jamais été vraiment toléré. Il y a quelques années de ça, ça avait été un peu oublié. Ça a repris. Il y a eu des gens, au début, quand ça a repris, qui se sont fait contrôler, arrêter, perquisitionner. Pour avoir peint ici. Parce qu'en fait, le mur appartient à la SNCB. Donc, eux, ils sont pas chauds du tout que tu viennes peindre dessus. Je crois que la police, ils sont assez... assez tolérants, je pense, par rapport à l'endroit. Mais j'ai entendu que... la SNCB, eux... ils sont pas très contents qu'on paye ce mur.
Ils viennent parfois repeindre sur ce que vous avez fait, ils nettoient ou ils ont lâché l'affaire.
Non, c'est pas ça, mais par exemple, on va dire si maintenant t'as un responsable de la SNCB qui vient faire un truc sur les voies ici, ou je sais pas moi, tu vois, il voit que tu peins, bah, il va directement appeler la police, tu vois, ou alors la sécurité de par exemple, Sécurail qui passe les voies, bah, eux. Ils t'arrêtent et ils appellent la police pour que la police fasse leur travail, même si eux, quelque part, ils sont pas trop graves. Enfin, je pense, d'après ce que j'ai compris, ce serait quelque chose comme ça. On serait pas loin de ce que je raconte.
Et t'en penses quoi?
Moi, je trouve que plus il y a des gens qui peignent sur des endroits comme ça, des murs où c'est canalisé, on va dire, moins ces bombes-là vont servir à être utilisées ailleurs. Par exemple, si j'invente, les jeunes du quartier, ils ont ce mur-ci, ils peuvent venir peindre quand ils veulent, on va dire, ils vont dépenser... 10 bombes sur leur mois ou sur leur semaine dessus, bah, c'est peut-être 10 bombes qu'ils n'utiliseront pas pour aller taper la façade du musée ou Dieu sait quoi, tu vois.
Nous passons au total 4 heures avec sommeil. Le temps qu'il peigne sa fresque, le résultat est assez impressionnant, une œuvre aux couleurs contrastées et à l'aspect chaotique, un lettrage de son pseudo comme tous les graffitis. Pour nous remercier de notre compagnie, Sommeil inscrit notre nom, le mien et celui d'Arnaud, mon preneur de son, en bas de son œuvre. Avant de le quitter, on lui demande encore si le mur sur lequel il vient de peindre subsiste grâce aux militants qui défendent le Marais.
Je pense que sans le Marais, ce serait déjà construit ici, donc grâce au Marais, ça nous permet de pouvoir continuer de peindre. Et le Marais, lui, il n'a pas besoin du tout de nous pour exister. Alors que je pense que nous, sans le Marais, il n'y aurait plus de mur.
À la fin de mon premier jour au Marais Wills, Geneviève, sa défenseuse la plus active, m'a donné un petit livre. Son titre complet, Terre humide, les marais de Gensoren, autopsie d'une zone instable. Geneviève sait que je m'intéresse au marais de Gensoren, c'est l'un des derniers vestiges des zones humides de la vallée du Molenbeek et le sujet du prochain épisode de ce podcast.